Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. J'en fais qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes numériques de Cogeco, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, mais via les plateformes numériques de Cogeco. Et vous pouvez nous voir également à la télévision dans le cas de Hugues et moi particulièrement. Et Charlotte aussi. D'ailleurs, Charlotte prend une pause cette semaine puisqu'elle est en vacances. Alors, on lui souhaite des bonnes vacances. Un qui n'a pas eu de vacances la semaine passée, ben, c'est Nicolas Richard qui a en dépit d'avoir couvert le patinage artistique, a trouvé le temps de venir faire un tour avec nous la semaine passée. Ça a été bien apprécié, mais tu as fait une belle couverture, là, mon cher Nicolas. Tu as aimé ton expérience là-bas?
Oui, à part que je m'ennuie de vous parler depuis le salon Jacques Beauchamp. Là, mon simple appartement est beaucoup moins prestigieux que le salon où vous avez certainement été, les gars.
Oui, à quelques reprises, effectivement. Et ben, de toute façon, bravo à toi. Hein, tu es le premier de l'histoire à faire sur la ligne en direct du Centre Bell.
Oui, et on fera bientôt directement sur la patinoire, je pense, Alex. Hein, c'est dans les projets.
Pour, si jamais un jour la Coupe Laver venait à Montréal, ben, ce serait tout pourquoi un prétexte pour le faire là. On va revenir, Nico, rapidement, parce qu'il y a eu quand même une histoire un peu phénoménale là, d'une athlète qui a arrêté pendant 16 ans et qui a gagné la médaille d'or là, au championnat du monde. C'est quand même assez spectaculaire, ça.
C'est quand même assez hallucinant, les gars. Imaginez-vous arrêter de faire un sport pendant 16 ans.
Ça n'a pas de sens.
Un sport de haut calibre, comme un sport d'autant plus de répétition d'endurance, comme le patinage artistique. Bien, c'est un peu l'histoire de Diana Stelako-Dudek, qui est une Canadienne, une Québécoise d'adoption, qui patine, elle, en couple avec Maxime Deschamps. Lui aussi, là, c'est un gars qui a une belle histoire, a été à l'arrêt, a cherché 10 partenaires avant de trouver la bonne. A vécu avec un TDEH extrêmement longtemps aussi. Donc, bref, on remportait après, contre toute attente, là, l'or au championnat du monde. Donc, c'est une belle histoire en fin de semaine à Montréal.
Oui, une histoire qui ressemble, sans que ce soit exactement la même chose, et beaucoup moins longue, mais c'est quand même impressionnant, tu sais, de voir des histoires comme Rebecca Marino, entre autres, qui reviennent au jeu après une longue période de temps comme ça, et puis 16 ans. Là. 16 ans et revenir au sommet du monde, quand même spectaculaire, là.
À 40 ans, qui plus est, on sait que le patin artistique, c'est un sport dans lequel l'expérience est un avantage, mais 40 ans pour le sport professionnel, les gars, vous le savez, à moins d'être exceptionnel, c'est parfois lourd à porter.
Parlant d'exceptionnel, je salue le cher collègue Hugues Léger. Hugues, comment te portes-tu? Comment vas-tu, mon cher ami?
Bonjour tout le monde. Ça me rappelle un certain Bjorn Borg qui avait tenté un retour qui avait été, ma foi, de courte durée, un petit match sur sa surface de terre battue préférée à Monte-Carlo, une défaite de 6-2, 6-3 après un arrêt de pratiquement 10 ans et ça s'était terminé. Donc effectivement, des retours après une longue période, là, c'est pas évident. Ça va bien, sauf que la petite tempête de samedi nous a surpris un peu pendant que je suis en train de négocier des ouvertures précoces de terrain à travers la ville de Montréal. On a mis un petit frein là-dessus là, pour avoir une fenêtre de beau temps, mais bon, ça ne serait tardé là, avec les beaux jours qui reviennent. Ça va bien.
Eh oui, si vous voulez réserver des terrains, passez par Tennis Montréal ou Hugues Léger agit à titre de directeur général. Passe tous ces jours maintenant au Parc Jarry. Et d'ailleurs, ça permet assez régulièrement d'aller frapper quelques balles. Là. Des fois, on enregistre des choses et dit là, bon, il faut que j'aille frapper des balles. Alors, le bon Hugues qui se garde en forme. Messieurs, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. On va faire le tour de l'actualité de ce qui s'est passé dans la première semaine à Miami. On va commencer par ce qui s'est passé du côté canadien. Bon, commençons avec Félix Auger-Aliassime. Hugues, premier commentaire, et c'est le commentaire qui revient souvent, il joue à la hauteur de son classement. Ben, malheureusement, ça s'est arrêté là où ça devait s'arrêter, c'est-à-dire à son deuxième match.
Ben, sauf qu'à la race, il continue de descendre semaine après semaine. Il est maintenant au 40e rang du côté de la race, autour de 35-36 côté simple. Il n'y avait pas trop de points à défendre, heureusement pour lui. Mais bon, le consensus en ce moment, c'est qu'il y a des ajustements qui doivent être faits. Même s'il joue au niveau de son classement, ça va nulle part en ce moment. Une défaite quand même assez nette en 2-7 contre Zverev, 6-4, 6-2. C'est pas suffisant pour Félix. Donc, encore une fois, une semaine un peu décevante. Fin du Sunshine Double pour lui. Voyons voir ce qui nous amènera sur terre battue. Mais s'il veut une relance pour la saison 2024, il faut que ça se passe bientôt.
Est-ce que tu as vu quand même du positif dans son match? Tu sais, des fois, tu dis, ben, d'accord, il a perdu, mais c'est plus la façon dont il a perdu. Là. Ton analyse de cette défaite-là contre Zverev, c'est quoi selon toi?
Ben, j'ai l'impression qu'il tente un peu plus de choses, mais ce qui m'inquiète, c'est son deuxième service, en fait. Il y a eu un très bon jeu là, au niveau de son pourcentage de première balle et de points gagnés. Tu sais, dans des ordres de 70%, c'est correct. Là, mais beaucoup de problèmes sur sa deuxième balle. Pas de balle de break. Donc, c'est ces deux stats-là qui m'inquiètent un peu. Il faut qu'il puisse faire mieux contre des joueurs, contre Zverev pour aspirer à remonter au classement. D'autant que semaine après semaine, comme son classement est de plus en plus en danger en ce moment, il va avoir des premiers tours, deuxième tours difficiles. Donc, il faut qu'il réussisse à jouer mieux contre des joueurs là, du top 20 pour espérer remonter.
Oui, parce que c'est un peu ça, Nico, dans le sens que, on dit, parfait, il respecte son classement. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde dans le contexte qui s'attendait à ce qu'il batte Zverev, mais en même temps, c'est le lot d'avoir un classement aussi bas, et je le mets entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas frapper un top 5 mondial dès le début du tournoi. Là.
Ben, c'est ce que j'allais dire. T'sais, au-delà des statistiques et du rendement, ce qui est, je pense, plus préoccupant, c'est que dans la mesure où Félix, là, puis je pense que c'est encore son objectif ultime, c'est-à-dire d'être top 5 mondial et de gagner des grands chelems, il a la fâcheuse tendance de s'écraser contre les meilleurs. Zverev cette semaine, Alcaraz la semaine dernière, et rappelez-vous, Rublev il y a quelques semaines à Rotterdam. C'est beau gagner des premiers tours contre des joueurs peut-être au classement plus éloigné, mais lorsque vient le temps de gagner des gros matchs, parce qu'on le sait, les gars, il n'y a pas de secret là. Être parmi les meilleurs, il faut battre les meilleurs. Et Félix Auger-Aliassime est incapable de le faire présentement. Puis tu sais, dans les deux derniers matchs, là, oui, contre Rublev, c'était peut-être plus serré, mais contre Alcaraz et Zverev, c'est deux manches nettes où Félix n'a jamais eu de chance. Puis c'est ça qui est inquiétant. Tu sais, à la limite, si c'est des 7 étirés, ou c'est 7-5, 7-6, ou que Félix même avait peut-être des balles de bris, mais là, on est loin de là, là. C'est comme si Félix était un joueur hors du top 100 qui arrive contre un joueur du top 10 et qui est incapable de faire quoi que ce soit. Présentement, c'est ça qui est préoccupant.
Oubliez pas que son premier tour avait été difficile aussi. Hein. La victoire de 7-5, 6-4, ça s'est réglé à la fin du premier set pour réussir à avoir un break finalement. C'est quand même laborieux en ce moment.
Ben, il est intéressant pour les parieurs d'une certaine manière parce qu'il est très constant dans sa façon de jouer présentement. C'est-à-dire qu'il bat les gars qui devraient battre et bat pas les gars qui sont mieux classés que lui présentement. Est-ce que ça pourrait être plus positif? C'est un peu neutre, j'ai l'impression, l'analyse que j'en ai là, de Félix Auger-Aliassime
présentement. Sa progression, Alex, elle est neutre. Est-ce qu'il y a vraiment un progrès depuis l'Open d'Australie, les gars? Ça stagne beaucoup. Là.
Ouais, certains vous diront que si à ce niveau-là, il n'y a pas de progression, ben tu recules. Alors, je pense que lui-même doit trouver des solutions s'il veut continuer d'avoir de grandes aspirations, c'est-à-dire de remporter des titres et peut-être même des grands titres. Mais pour l'instant, il n'est pas dans la classe des joueurs top 10 là, qu'on connaît. Et puis, ben, ça fait déjà quelques semaines là, qu'on en parle. Enfin, c'est pas une saison décevante, mais pour l'instant, j'ai l'impression, mais c'est pas une saison extraordinaire non plus. Un qui commence, par contre, à faire quelques flamèches intéressantes, ben, c'est Denis Shapovalov, mon cher Hugues.
J'aimais beaucoup, je vous disais la semaine dernière, sa régularité à jouer semaine après semaine. On voit qu'il est sérieux au niveau de son retour. Quelle belle victoire contre Stefanos Tsitsipas quand même. Il a débordé Tsitsipas, un match de revers à une main, pour ceux qui le savent. Et pour les connaisseurs, c'est un régal de voir ces deux joueurs-là s'affronter. Mais Denis a vraiment débordé Tsitsipas. Beaucoup de puissance, beaucoup de contrôle sur son jeu. C'était trop lourd, trop rapide pour Tsitsipas. Mais ce que j'ai aimé surtout, les gars, c'est son attitude. Donc, il y a eu un jeu au début du deuxième set. Bon, il gagne le premier plutôt facilement, 6-2. Début du deuxième set, il y a un jeu extrêmement long. Il y a eu 8 balles de break qu'il n'a pas réussi à convertir. Ça aurait pu le décourager un peu, mais non. Il est resté concentré, puis il a finalement réussi à breaker un peu plus tard dans le set. Victoire de 6-2, 6-4 quand même contre un Tsitsipas qui est 11e, 10e mondial en ce moment. C'est ça, c'est vraiment encourageant pour Shapovalov. Et c'est, je dirais que c'est la récompense pour tout le travail qu'il met depuis quelques semaines. Je suis vraiment content pour lui.
Ça fait quelques semaines déjà qu'on dit que, bon, il y a du positif, là, tranquillement, et un peu de lumière au bout du ciel, le cas de Shapovalov. Et là, il a frappé visiblement un grand coup là, avant de perdre contre Arnoldi, mais on s'en reparlera d'Arnoldi parce qu'il a frappé lui aussi quelques grands coups dans ce tournoi-là. Nico, mais c'est quand même positif là, ce qui se passe pour Chapeau.
Mais tu sais, les gars, il n'y a pas de secret. Ça fait des semaines et des semaines qu'on le répète. Denis Shapovalov est un joueur de séquence. Il a bâti sa réputation sur le fait d'être parfois extraordinaire, parfois médiocre. Mais là, plus il joue, plus il prend du galon, plus il prend confiance. Puis je suis convaincu, les gars, que si on reprenait son premier match de la saison et celui qu'il a joué contre Tsitsipas, on verrait deux Shapovalov complètement différents.
Oui.
Et l'autre point que j'aimerais souligner, c'est que oui, je ne vais pas mettre de bémol sur cette victoire-là. Oui, c'est Tsitsipas, mais ce n'est pas un Tsitsipas au sommet de sa forme non plus, les gars. Je pense que Shapovalov a été opportuniste dans la mesure où il a battu un Tsitsipas qui est en perte de moyens, en perte de repères. Il n'a jamais joué plus de 3 matchs dans un tournoi depuis l'Open d'Australie. Tant mieux pour Shapovalov, ça lui a permis de peut-être reprendre confiance. Mais de l'autre côté, je voyais beaucoup de gens sur les médias sociaux louanger Shapovalov de battre un top 10 contre Tsitsipas.
Ouais.
Remettons les choses en contexte. Tsitsipas n'est pas aussi bon qu'il l'était il y a peut-être 2-3 ans.
C'est vrai, Nico. Mais c'est quand même un nom. Moi, je pense que ça peut lui donner une certaine confiance pour la suite, un tremplin. Mais tu as raison, Tsitsipas, ce n'est pas le même qu'il y a deux ou trois ans. Mais c'est une victoire qui est quand même significative.
Tout à fait.
Non, ça, c'est 100% significatif. Et surtout dans le contexte des deux dernières saisons de Denis Shapovalov, où les moments de réjouissance là, ont été plus que limités. Et, et certains même se demandaient s'il y avait encore de l'intérêt pour le tennis, ce qu'il a vaguement nié. Là, mais il reste que quand certains commencent à se poser ce genre de questions-là, parfois, ça peut en dire long sur tes résultats et comment ça se passe. Et on va y revenir à Matteo Arnaldi qui a battu Denis Shapovalov, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire sur ce petit garçon-là. Mais avant, je veux qu'on termine le parcours des Canadiens, puisque Léla Annie Fernandez, elle s'en sort pas si mal, mais encore une fois, c'est un peu une histoire qui ressemble à celle de Félix, c'est-à-dire que pour l'instant, elle frappe souvent de bonnes joueuses rapidement dans le tournoi. Ça a été le cas contre Jessica Pegula, un match de 3e tour, et Pegula l'a emporté, Hugues.
Oui, mais encore une fois, c'est souvent dans la manière, Alex. Sa défaite contre Pegula, c'est 7-5, 6-4. Elle était vraiment dans le match contre une joueuse établie du top 6, top 5 mondial. Pour moi, c'est une bonne performance. Là. Elle était pas loin, Léla. Mais effectivement, il va falloir qu'elle aille en chercher un ou deux matchs comme ça. Mais encore une fois, c'est un tournoi qui, pour moi, est satisfaisant pour elle. Elle a tellement bien joué au tour précédent contre Arango. Une victoire de 6-4, 6-2. Je pense qu'elle ne peut pas être trop déçue. Elle était classée, je crois, 31e favorite dans ce tableau-là. Donc, elle joue au niveau de son classement, mais elle a fait un match solide contre Pegula. Donc, ça va quand même bien pour Fernandez. On a vu aussi que son épaule n'a pas semblé l'embêter. Donc, sa blessure semble réglée là, de son côté. C'est une bonne chose.
Et on ne sait pas si elle est à 100%. Ben, en tout cas, ouais, tu dis que ça semble réglé, mais on ne saura jamais. Là, les athlètes le cachent assez bien. Mais bref, elle s'en est bien sortie contre une des meilleures au monde. Nico, es-tu d'accord avec l'analyse de Hugues au sens où c'est quand même, malgré tout, une défaite rapide façon de parler, mais dans la façon dont ça s'est fait, il y a beaucoup de positifs.
J'ai de la misère, les gars, à faire une tête sur le cas de l'Hélène Fernandez. Puis je m'explique. Lorsqu'on demandait aux têtes dirigeantes de Tennis Canada en début de saison, qui sera la joueuse et même l'athlète, là, si je prends les deux sexes, à surveiller sur qui vous fondez le plus d'espoir. On nommait Fernandez, notamment à raison de sa performance à la Coupe Billie Jean King. Et là, présentement, oui, dans un contexte où c'est un Masters 1000 qu'elle affronte Jessica Pegula, oui, c'est peut-être un bon tournoi dans les circonstances, mais quand même, depuis le début de la saison, elle semble avoir la fâcheuse habitude de performer quand ça compte un peu moins et de s'écraser ou du moins de s'incliner lorsque ça compte le plus. L'avantage là, pour Fernandez dans le contexte, c'est qu'elle peut profiter de sa saison extrêmement difficile de l'année dernière pour ne pas perdre trop de points. Ouais. Donc, soit elle stagne, soit elle avance. Donc, ma tête n'est peut-être pas faite au complet là, sur l'analyse de la saison de Fernandez jusqu'à présent, mais je suis mitigé dans son cas là, pour Fernandez.
Il n'y a pas de défaite trop catastrophique dans son cas depuis le début de la saison, et ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Messieurs, si vous le voulez bien, on va faire une courte pause, et puis au retour, on va regarder ceux qui restent dans le tableau, autant du côté des hommes que du côté des femmes. Il y a beaucoup de belles histoires.
Offrez-vous un séjour à l'Hôtel Montville et bénéficiez de l'offre Kissoupe d'or, incluant un rabais de 15% sur le meilleur tarif, un petit déjeuner gourmand et un souper 3 services dans le restaurant de l'hôtel, tout en profitant d'une chambre luxueuse en hauteur. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver. Les suites spacieuses et modernes de l'Hôtel Montville offrent un confort exceptionnel avec des équipements de haute qualité tels que les lits kings, des douches avec effet pluie, un coin salon confortable et une vue imprenable sur la ville garantissant un séjour inoubliable. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver.
De retour à Sur la ligne, radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. Vous pouvez nous voir également à la télévision, à TVA Sport. Messieurs, deux points sur lesquels je veux qu'on vienne rapidement avant de regarder les gens qui sont encore dans le tableau. Il y a deux histoires qui ont marqué la première semaine d'activité. On avait hâte de voir le retour de Simona Halep. Et elle a fait un retour particulièrement intéressant parce qu'elle avait tout un défi sur les bras avec Paula Badosa. C'est une fille qui a déjà de grands titres sur le circuit, qui est peut-être plus à la hauteur de ce qu'elle a déjà été, mais reste que c'était tout un défi, Nico, pour Halep. Et puis, en dépit d'une défaite, je pense que c'est un résultat relativement intéressant.
Oui, puis je suivais le match parce que c'était impossible pour moi de l'écouter en direct. Je le suivais sur le site Internet. Et lorsque j'ai vu qu'Halep gagnait la première manche 6-1, je me disais, là, elle est vraiment comme on l'attendait, c'est-à-dire revigorée et avec l'impression de devoir se prouver pour tout le tennis qu'elle a manqué. Puis on le sait, Halep, c'est une guerrière, c'est une conquérante. Et là, plus tard, je reviens pour rafraîchir ma page quelques minutes, quelques heures plus tard, et je vois qu'elle s'est inclinée en 3 manches contre Badosa. Et là, je me dis, voilà, on le sait, le tennis, c'est un sport de rythme, c'est un sport de momentum. Oui, peut-être que les premiers instants du match étaient peut-être plus spéciaux là, pour Halep. Puis ça demeure quand même que Badosa, on en parlait hors d'onde, n'est pas nécessairement, du moins n'est pas encore devenue la joueuse qu'on attendait. Là. Souvenez-vous, lors de son épopée il y a 3 ans, à Wimbledon, au US Open, on se disait, on a trouvé l'héritière de Maria Sharapova et compagnie. Or, c'est un peu moins le cas, mais pour Halep, beau retour dans l'ensemble, là, dans un tournoi comme Miami. Je pense qu'elle a été catapultée un peu dernière minute dans ce tournoi-là. Ça demeure un beau retour, je pense que les fans l'attendaient. Accueil, somme toute, assez agréable pour elle. Donc, je pense que c'est plus de voir l'avenir, là, ce qui va arriver pour Halep, mais c'est un retour qui, je pense, sourire bien des amateurs de tennis, ce qui ultimement, je le répète, lorsqu'elle s'est arrêtée, lorsque ce scandale a éclaté, on était tous un peu surpris là, de la teneur du scandale, mais je pense que son retour fera du bien pour le monde du tennis.
Un commentaire sur ce retour-là. Est-ce que c'était à la hauteur de ce que tu t'attendais ou tu n'avais pas vraiment d'attente?
Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais on voit qu'elle est rentrée dans le match. Elle avait hâte de rejouer. Ça, c'est évident. Hein? Le fameux 6-1 dont Nico parlait. Moi aussi, ça m'a surpris quand je voyais le score dérouler. Mais après, quand même, un match serré. Là, donc, 6-1, 4-6, 3-6 contre Badosa, qui n'est pas la meilleure en ce moment. On est d'accord, mais quand même, il fallait le faire. Puis tu l'as dit, Nico, il y a quelques années, Badosa, c'était la nouvelle poster girl de Nike. Ils ont investi beaucoup sur elle. C'était vraiment une joueuse importante pour Nike. Là, depuis un an ou deux, on sait qu'il y a beaucoup de blessures là, qui lui ont fait du mal. Donc, elle est un peu moins présente, mais c'est quand même une joueuse de très bon niveau. Et c'est un bon test pour Halep. Et je pense qu'on va revoir Halep à un très bon niveau de performance là, dans les prochaines semaines. Je pense que ça a dû la satisfaire, cette performance. Puis, elle a vu que les gens étaient contents de la revoir aussi. Ça, c'est le fun pour elle. Donc, je pense qu'elle va repartir sur une deuxième phase là, au niveau de sa carrière qui devrait être quand même intéressante. Là. Elle a encore quelques bonnes années devant elle. Donc, mission accomplie quand même pour ce retour de Simona Halep.
Ouais, c'est ce qu'elle disait également en conférence de presse après le match. Elle disait, peu importe le résultat aujourd'hui, c'est une victoire. Et après tout ce qu'elle a vécu, je pense que c'est intéressant. Et de voir aussi qu'elle a un niveau déjà compétitif contre une ancienne top 2 mondiale. Là. Je comprends que Badosa, c'est plus... mais c'est vraiment une fille qui joue sur le circuit de façon régulière. Là. Alors, c'est un test particulièrement intéressant. Badosa est allé jouer contre Sabalenka par la suite. C'est drôle parce que, avec tout ce qui s'est passé du côté de Sabalenka, on n'a pas trop parlé la semaine passée, mais Hugues, peut-être juste rappeler un peu ce qui s'est passé dans son cas, là, parce qu'elle a vécu comme une, je sais pas si c'est une catastrophe ou un drame, là, je sais pas quel bon terme, mais peut-être rappeler un peu les événements puis expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Aryna Sabalenka.
Donc, on sait, Sabalenka est une joueuse très, très high profile du circuit, qui est bon, qui était une des joueuses vedettes de Breakpoint de Netflix, a perdu son conjoint la semaine dernière. Donc, drame à quelques jours du début de Miami. Donc, on parle du joueur Konstantin Kolstov qui a joué pour les Penguins de Pittsburgh, qui a joué en Russie, un joueur qui est un choix de premier tour en NHL quand même. Plusieurs histoires, en fait, cette histoire a pris plusieurs tournants dans les premières 48 heures. Au début, on parlait d'un suicide. Après, au début, on parlait d'un AVC. Après, on a parlé d'un suicide. Après, on a parlé d'un bête accident. Kolstov est tombé de son balcon d'hôtel et c'est finalement mort, là. Donc, après une soirée visiblement bien arrosée. Donc, on se demandait si Sabalenka était pour jouer. On l'a vu à l'entraînement. Elle a finalement fait son match de premier tour. Mais bon, c'est une histoire qui a fait quand même parler beaucoup, mais elle s'est dit « OK, moi, je veux jouer quand même ». Et j'aimerais éviter les apparitions médias durant le tournoi. Mais finalement, elle n'aura pas fait très, très, très long feu. Sûrement qu'elle est affectée par cette histoire-là aussi.
Peut-être que les choses avaient déjà commencé à la fatiguer il y a quelques semaines. Alors, bon, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver dans le cas de Sabalenka. Est-ce que c'est une situation qui va l'affecter pour longtemps encore? Bien, chose certaine, c'est une situation qu'il faudra garder à l'œil parce que quand on regarde les résultats de ces dernières semaines, bien, c'est peut-être pas à la hauteur de la championne de Grand Chelem. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui se trament depuis déjà quelques semaines. Et honnêtement, je veux dire, Nico, là, c'est une histoire un peu spéciale. Là, je veux dire, c'est pas clair qu'est-ce qui s'est passé. Là.
Ben,
comme les gars, dit, trois versions en 48 heures.
Ben, les gars, ajoutez au fait que son père aussi est décédé de manière précoce à 43 ans, il y a quelques années. Là, ça fait beaucoup de drames pour une fille de 25 ans, les gars, là, qui lutte à chaque semaine pour exceller dans son sport. Puis on sait à quel point c'est prenant pour les athlètes professionnels qui sont ultimement un peu égoïstes. Hein? Tout est centré autour d'eux. Ce qu'ils font, c'est pour eux, pour leur avenir. Et là, tu as une fille de 25 ans qui doit négocier avec la perte de son père, la perte de son ancien amoureux, et ça dans un délai extraordinairement triste. Ça fait beaucoup. Mais si je pense qu'il y en a une qui peut transformer cette adversité en force, c'est Sabalenka. Évidemment, on ne s'attendait pas à grand-chose pour cette semaine à Miami, mais dans les prochaines semaines, à Roland-Garros, à Wimbledon, dans les tournois importants, je suis convaincu qu'elle ne sera pas seule à jouer à ces tournois-là.
Bon, intéressant tout ça, messieurs.
Triste histoire.
Ouais, mais c'est une triste histoire. Et puis comme tu dis, Nico, c'est un peu le sort s'acharne sur elle là, de façon plus spectaculaire. Là. Elle en a vécu pour 10 des drames à son âge, comme tu le dis, là, à 25 ans. Pas censé avoir vécu autant de drames. Et puis, on sait à quel point la vie d'un athlète professionnel, c'est compliqué. Là. Alors, on est un peu tous avec Aryna Sabalenka dans cette histoire-là. Parlant d'histoire, il y a des histoires intéressantes du côté des hommes et du côté des femmes. Il y a celle de Tomáš Macháč, le Tchèque, qui, depuis le début du tournoi, a battu Rublev et Andy Murray. Résultat, il se retrouve en ronde des 16. Si j'ai jamais entendu parler de lui, ben, c'est un gars qui est 60e mondial, qui a fait quelques résultats intéressants, comme un troisième tour en Australie, là, mais pour l'essentiel, c'est pas un gars qui est souvent sur votre radar. Mais je veux qu'on en parle parce que, d'une certaine manière, il est une histoire Cendrillon de ce tournoi-là, mais Hugues, il a aussi battu contre Andy Murray, qui continue de nous en mettre plein la vue, le cher Sir Andy.
Ouais, moi, je suis vraiment impressionné par Andy Murray. Quelle passion il a pour son sport et quelle ténacité, je dirais, aussi au niveau de ses matchs. C'était un très, très beau match contre Macháč hier. Je l'ai regardé au complet. Un score donc de 7-5, 5-7 et 6-7, donc remporté par le Tchèque. Murray qui remonte de 4-1 dans le troisième pour revenir à hauteur de Macháč. Et ça s'est finalement réglé au tie-break. Malgré que Murray avait une avance de 5-1 dans le tie-break, je me disais qu'il va aller le chercher. Avec une foule qui le portait. Mais ce match-là, il mérite d'être suivi parce que Murray a joué un très bon match hier. Évidemment, il y avait toute la foule avec lui. Donc, c'était une belle performance là, du Tchèque. Puis effectivement, il pourrait peut-être faire une coupe de tour encore. Là. C'est un joueur qui est en forme en ce moment. Du tennis de très, très, très haute qualité qu'il livre en ce moment.
Ben, il a battu Matteo Berrettini, Andy Murray, en ce début de tournoi. C'est quand même pas banal. Ah ouais. Et Machach, je disais, il a peut-être des chances d'aller un peu plus loin parce qu'il va affronter, lui, une autre histoire, Cendrillon, dans ce tournoi-là, d'une certaine manière. C'est Matteo Arnaldi qui, lui, a fait des résultats particulièrement intéressants parce qu'il a battu un des joueurs en forme du circuit Arthur Fils depuis le début de la saison. Alexander Bublik par la suite et Denis Shapovalov, je vous avais dit, on en avait parlé un peu plus tôt dans l'émission, et les deux vont s'affronter, Arnaldi contre Machach. Est-ce que ça devient soudainement, Hugues, un match intéressant? Ce qui, a priori, tu nous aurais dit au début du tournoi, ça n'aurait peut-être pas été le cas.
Ben absolument. Quand on a des joueurs qui se retrouvent au troisième, quatrième tour, qui n'étaient pas des favoris, il se passe quelque chose. Et on parle de deux joueurs qu'on n'attendait pas. Donc oui, absolument, ça va être un match intéressant. Et encore une fois, si Arnaud dit qu'il a battu Shapovalov, donc dans un match aussi serré, et Shapovalov jouait bien en ce moment. Donc oui, c'est des joueurs qui font un très, très beau parcours à Miami. Ils sont à surveiller encore, assurément.
Nico, commentaire sur ce match-up-là. Est-ce que c'est quelque chose qui t'émoustille? Je te vois la face. Là.
Oui, mais ça prouve encore une fois que même dans les Masters 1000, les gars, il n'y a rien qui peut être prévu. On le voit à Montréal nombre de fois. On le voit à Miami. On le voit à Indian Wells. Même si c'est un Masters 1000 qui est supposé être un grand tournoi réunissant les meilleurs et on va voir les meilleurs battre les meilleurs jusqu'au bout. Il y a quand même des histoires Cendrillon et ça prouve une fois de plus que l'écart entre l'élite et entre guillemets le reste rétrécit d'année en année. Qui aurait cru, puis Alex m'en parlait, là, si tu m'avais nommé ces deux noms-là en début de tournoi, puis tu me disais ça va être un match à surveiller, je t'aurais sûrement roué au visage. Mais ça reste qu'ultimement, un de ces gars-là va peut-être accéder au quart de finale et qui sait au demi-finale. C'est fantastique.
Ouais, non, c'est deux belles histoires et qui sait où pourront-ils aller. Il y en a une des deux qui va se terminer, mais il y en a une des deux qui va se poursuivre assurément. Sans qu'on en fasse une grosse histoire, peut-être mentionner que Christopher O'Connell a battu Francesc Tiafoe. Il est encore dans le tournoi. Il faudra le garder peut-être à l'œil pour une autre histoire intéressante. Et Hugues, tu voulais parler de Holger Rune qui, lui, ça a été moins spectaculaire dans son cas.
Ben Rune, on le sait, qui a reconduit son partenariat avec Patrick Mouratoglou, coach qui l'avait déjà amené à un très bon niveau dans le top 10 il y a pas très longtemps. Ça s'était terminé en fracas où même Rune disait moi j'ai pas besoin d'un gars qui est là pour être assis dans les estrades. Ça avait été assez dur comme fin. Donc Mouratoglou est de retour. Mais par contre, hier, contre un certain Marozan, défaite de 6-1, 6-1, double breadstick. Hein, il y a les double bagels, mais il y a les double breadsticks aussi. Donc, 6-1, 6-1. Bon, apparemment, Rune n'était pas en très bonne forme. Peut-être un rhume ou une grippe là, qui l'a ralenti un peu. C'est quand même une défaite très, très étonnante en ronde de 64 pour un joueur qui se relance en ce moment aussi avec le retour de son coach qui l'a amené au plus haut niveau précédemment.
Et avant de terminer du côté des hommes, je vais faire un mot sur Gaël Monfils. Et honnêtement, on va avoir tout un spectacle, je pense, entre Alcaraz et Monfils.
Ben oui, Gaël Monfils, écoute, semaine après semaine, là, mais mine de rien, Monfils revient au niveau du classement. Je crois qu'il est à la 47e place cette semaine. Et contre Alcaraz, là, ça va être un feu d'artifice. Monfils qui joue très bien, qui sert très bien. Je crois que ça va être un match intéressant. Bon, Alcaraz, en ce moment, joue vraiment, vraiment très bien. Mais quand Monfils, 37 ans, comme Murray, là, moi, c'est des joueurs que je suis heureux de voir encore performer à ce niveau-là dans des Masters 1000. 47 ans, donc, excuse-moi, 37 ans, mais 47e rang mondial. Et il joue bien en ce moment, Monfils. Il est bien physique. Donc, c'est du bonheur de voir jouer. C'est bon pour le tennis de voir un joueur spectaculaire comme Monfils se rendre aussi loin encore en ce moment.
Écoute, il a gagné un titre en fin de saison l'année passée, ouais. Octobre. Ouais. Et honnêtement, c'est pas facile de gagner des titres sur le circuit de l'ATP. Il a fait une demi-finale à Doha cette année, un quart de finale à Indian Wells, une ronde des 16 une ronde des 16 à Indian Wells la semaine passée. Ouais. Alors, écoute, c'est un gars qui va bien ces temps-ci. Là,
et, très bien.
Et je ne sais pas si ça en dit long sur la génération qui suit, que les petits vieux du circuit, si on veut, continuent de rivaliser et d'être aussi bons. Qu'est-ce que tu allais dire?
Mais Alex, ça dit encore la puissance du Big Three. Là. Imaginez des Murray, mon fils, Del Potro, Wawrinka, on en a souvent parlé. Ces gars-là, sans Federer, Nadal et Djokovic, auraient été chercher plusieurs titres en plus parce qu'encore une fois, on voit quel niveau ils peuvent livrer. Comment dire, en fin de carrière, mais c'est vraiment impressionnant là, ce que Murray et mon fils font encore en ce moment.
Mais ça reste, les gars, que mon fils demeure un des très grands joueurs de l'histoire de ce sport-là aussi. C'est pas comme un Manarino, par exemple, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe à 35 ans. Mon fils, il est parmi les grands gagnants puis parmi les plus victorieux de ce sport-là. Puis un petit point sur mon fils, les gars, je pense qu'il est au pinacle là, de sa carrière, du moins, je pense qu'il en reste moins qu'il en restait. Où auront lieu les Jeux olympiques? À Paris, en France, dans sa cour. Je ne suis pas de genre engagé, mais je pense que mon fils va vouloir tout laisser sur le terrain de Roland-Garros devant ici.
Il adore ça, jouer à Roland-Garros. Ouais. Il carbure à ces matchs-là et on sait que la foule à Paris est particulièrement vocale et engagée dans les matchs. Après, à part le US Open, c'est là qu'il y a le plus d'action dans les estrades. Moi aussi, comme toi, Nico, je pense que ça va être vraiment le fun de voir mon fils à Roland-Garros et qui tirera peut-être sa révérence quelques temps après, en fait.
Ben, ce sera à suivre du côté de Gaël, mon fils, ça c'est certain. Puis moi, j'avais toujours dit, je vais toujours me déplacer pour voir ce joueur-là jouer. Il est assurément dans l'histoire un des joueurs les plus spectaculaires, un des plus grands showmen de l'histoire du sport, ça c'est certain. Puis moi, je vais en prendre autant qu'il le voudra. Et qui sait, peut-être qu'il se partira un genre de Harlem Globetrotters là, du tennis quand il sera à la retraite. Il serait le candidat parfait pour le faire, autant au niveau de la personnalité qu'au niveau de ce qu'il peut faire avec une raquette sur un terrain. Et si on va faire une dernière courte pause et au retour, on va regarder ce qui va se passer du côté féminin parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs intéressants du côté des femmes.
Offrez-vous un séjour à l'Hôtel Montville et bénéficiez de l'offre Qui soupe d'or, incluant un rabais de 15% sur le meilleur tarif, un petit déjeuner gourmand et un souper 3 services dans le restaurant de l'hôtel, tout en profitant d'une chambre luxueuse en hauteur. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver. Les suites spacieuses et modernes de l'Hôtel Montville offrent un confort exceptionnel avec des équipements de haute qualité tels que les Lee King, des douches avec effet pluie, un coin salon confortable et une vue imprenable sur la ville garantissant un séjour inoubliable. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver.
Dernier bloc de l'émission. Du côté des femmes, j'en parlais avant la pause. Il y a des éléments très intéressants quand on regarde le côté féminin. Je pense que les meilleures joueuses ont pas mal, pour l'essentiel, passé, là, mis à part peut-être Sabalenka, là, qui est la grande oubliée dans le tableau. Ben, oubliée, façon de parler, là, c'est-à-dire qu'elle a perdu. Mais quand je regarde les matchs de ronde des 16, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments intéressants. Zviat contre Alexandrova, va être un match spectaculaire. Navarro, l'américaine, contre Jessica Pegula, match tout américain, ça va être spectaculaire. Coco Gauff contre Garcia, messieurs, ça aussi, ça va être bien intéressant. Et un match sur lequel je veux qu'on regarde, pas nécessairement pour le côté spectaculaire, parce que, Maria Sakkari, on sait déjà qu'elle va passer en quart de finale, mais est-ce que c'est, Nico, le retour de Maria Sakkari? Elle va bien ces temps-ci.
On ne le saura jamais, Alex, jusqu'en demi-finale ou en finale. C'est souvent là que pour Sakkari, ça coince. C'est souvent là que le bâton se met entre ses roues. Mais tu l'as dit, le tableau présentement... Puis on a très peu parlé de Caroline Garcia, là, l'ex-préférée de Hugues. Mais ça reste que c'est un retour triomphal pour elle. On l'avait presque oublié. Elle était complètement sortie du radar. Elle va jouer contre une Osaka qui, soudainement, est comme revenue de ses cendres. L'a battue de manière assez expéditive. Steve, très bon match par ailleurs. Et là, affrontera, tu l'as dit, Coco Gauff dans un duel qui promet d'être explosif entre deux joueuses qui sont capables du meilleur comme du pire. Oui, tu parles de Sakkari, mais moi, c'est Garcia. Ce retour-là, inattendu dans un tournoi comme ça, sur dur, et là, ça s'en vient tranquillement sur terre battue. Le retour de Caroline Garcia, elle est très, très, très intéressante.
Oui, ça, c'est intéressant. Également, d'autres matchs à surveiller. Il va y avoir Madison Keys contre Rybakina et Azarenka contre Katie Bolter. Hugues, je te voyais dire, Katie Bolter est l'histoire du tournoi. Et je suis assez d'accord avec toi, mais il reste que je pense qu'on commence à l'attendre, là, Katie Bolter, parce qu'elle a quand même enchaîné des titres, commence à avoir des résultats intéressants. Et là, ben, elle va avoir peut-être un autre résultat intéressant à sa fiche d'ici la fin du tournoi.
Oui, donc dans le bas du tableau qui s'est beaucoup ouvert avec la défaite de Sabalenka, ça vient ouvrir la porte peut-être pour une joueuse là, comme Katie Bolter. Elle bat quand même Béatrice Haddad-Maia nettement, là, 6-2, 6-3. Elle avait battu la jeune sensation Fruvirtova 7-6, 1-0, c'est un walkover, mais quand même, elle avait été chercher ce match-là. Elle joue contre Azarenka un peu plus tard aujourd'hui. Très, très beau match-up. Là, donc, 24e favorite Bolter contre la 27e Azarenka, mais ça pourrait être un match important là, pour la suite, pour Bolter, qui effectivement a une très, très bonne saison 2024. La petite amie, on le sait, de Alex de Minaur. Et si on regarde, là, elle a vraiment une bonne année 2024 jusqu'à maintenant. Des victoires contre Kostiuk, notamment, des victoires contre Navarro, qui joue très bien en ce moment, à Haddad-Maia cette semaine. Moi, je pense que Bolter est à surveiller en ce moment.
Elle a remporté le titre à San Diego. Elle avait remporté également un titre un peu dans la fin de saison l'année passée. Katie Bolter commence à faire quelques flamèches là, sur le circuit de la WTA. Là, ben, elle a quand même battu Fruvirtova. On sait à quel point la jeune Tchèque est talentueuse avant de battre Béatrice Haddad-Maia pour s'offrir un match contre Azarenka. Dans le contexte actuel, Nico, est-ce que tu favorises une Katie Bolter face à Azarenka ou est-ce que tu vas donner l'avantage à la vétérane?
C'est deux cas intéressants parce qu'on sait qu'Azarenka, elle est capable, surtout sur dur, surtout aux États-Unis, de très, très, très bien faire. Mais Bolter, vous l'avez dit, elle a son air d'aller. Et ce qui m'a surpris de Bolter, les gars, c'est en fin de semaine, en regardant son âge, elle a 27 ans. Je pensais qu'elle était plus jeune que ça. Fait que, on parle d'elle, c'est un peu... On parle d'elle comme une jeune joueuse en devenir, mais c'est plus une late bloomer, j'ai envie de dire. Tu sais, à 2 ans de 11 jabards, je veux dire, c'est un succès qui est quand même tardif, là, même si 27 ans, dans l'ordre des choses, ça demeure un âge relativement jeune. Mais je pense que Bolter a un air d'aller. Elle va vouloir gagner, monter au classement. Ce sera compliqué. Azarenka, bon, on le sait, elle vieillit, mais quand même, joue encore de l'excellent tennis. Mais il n'y a pas un duel, les gars, du moins Alex, dans ce que tu as nommé, qui n'est pas intéressant. Là. Je pense qu'on pourrait tous s'asseoir devant ces duels-là et, je pense, éprouver du plaisir.
Oui, bien, la plupart des matchs sont particulièrement intéressants. Tu sais, même il y a celui de Sirstea contre Danielle Collins, que je n'ai pas nommé, mais Danielle Collins est toujours un peu un chien dans un jeu de quilles. C'est une fille qui peut aspirer quand même à de grandes choses. Elle a fait de grandes choses dans le passé, alors...
Oui, puis elle veut une belle performance sur le sol américain, ancienne championne de la NCAA. On sait qu'elle prend sa retraite bientôt. Ouais. Je pense qu'elle veut peut-être tirer... c'est peut-être le champ du cygne pour elle, Miami, du côté américain. Donc, elle voudrait très bien faire et elle peut surprendre beaucoup de joueuses encore.
Non, c'est ça. Alors, je voulais qu'on en parle puisque je regardais, bon, du côté du tableau féminin. Et puis, ben je trouvais vraiment qu'il y avait des matchs particulièrement intéressants. Ouais, c'est vrai. Ce côté-là, et c'est rare, des fois, bon, tu dis, il y a des surprises, ça, mais là, tous les matchs, pour les puristes de tennis, là, ça va être un 2-3 jours le fun, puis inévitablement, quand tu as beaucoup de bons matchs comme ça, en ronde des 16, ben, tu mets la table pour beaucoup de bons matchs d'ici la fin du tournoi également, là. Alors, ça, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Bon, messieurs, avant de vous laisser aller avec les joueurs qui restent dans le tournoi et joueuses du tournoi, ben, c'est le moment que Hugues préfère le plus, c'est-à-dire les prédictions. Et par préfère le plus, j'entends l'essentiel du contraire. Mais Nico, je vais commencer avec toi. Qui vois-tu aller jusqu'au bout d'ici la fin du côté masculin et du côté féminin?
Du côté féminin, je pense que la logique, puis je vais y aller avec ça, c'est d'y aller avec Swiatek, les gars. Elle paraît du moins inébranlable. On l'a vu fragile à certains moments sur le plan émotionnel et même sur le plan tactique depuis le début du tournoi à Miami. Mais on est dans sa séquence, vous le savez. Le début du printemps jusqu'au début de l'été, là, on est pas mal dans sa meilleure phase. Là. Puis le tournoi Indian Wells, Miami, puis la séquence qui suit après sur terre battue, c'est vraiment là qu'elle est à son meilleur. Donc, je vais aller avec Swiatek. Je pense que c'est un peu le choix facile. Et du côté des hommes, c'est difficile, mais je vais peut-être copier Hugues, là, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais je pense que Medvedev sera mon choix pour la fin du tournoi. On l'a vu, on le sait déjà, très cocky, mais plus, on serait plus arrogant depuis le début du tournoi. Je pense qu'il sent que la pression chauffe là, avec Sinner, avec Alcaraz. Il veut prouver qu'il est encore là, qu'il est encore dans la game, si vous me passez l'expression. Ça va bien pour lui, le dur lui fait très, très bien. Il sait, là, sur terre battue, ce ne sera pas simple. C'est pas sa surface, donc il doit emmagasiner des points avant le début de la séquence sur terre battue. Donc, mon choix, Medvedev pour Miami. Et son tableau, je pense, est peut-être plus facile d'ici la fin du tournoi que les deux autres.
Intéressant. Hugues, quels seront tes choix?
Oui, tu l'as dit, j'aime pas trop cet exercice-là, mais je regarde les tendances, je regarde le momentum qu'on voit sur le terrain avec certains joueurs et certaines joueuses. Et j'aime beaucoup ce que Swiatek amène sur le terrain en ce moment. Elle est motivée, elle veut gagner, elle a la hargne en ce moment de gagner. Et c'est pour ça, moi, bon, c'est une championne logique, hein, c'est elle qui remporte, évidemment, 3000 points, je le rappelle, d'avance au premier rang mondial sur Sabalenka, qui n'aura pas gagné de points vraiment pour la rattraper cette semaine. Donc, je pense que Swiatek va se rendre jusqu'au bout. Mais il y aura sûrement un quart de finale contre Pegula qui va être intéressant là, si on regarde la suite du tableau. Et aussi une Coco Gauff qui est de son côté. Donc, il y aura des matchs excitants à regarder du côté féminin. Et comme Nico, du côté masculin, je pense que Medvedev est mûr pour Miami. On sait que la surface est un peu plus rapide qu'Indian Wells. Il n'aime pas Indian Wells. Il croit que c'est pas une vraie surface rapide parce qu'elle est quand même assez lente. Elle est assez abrasive. Et quand même, pour qu'Alcaraz remporte deux tournois de suite ou que Sinner revienne aussi, ils ont laissé quand même beaucoup d'énergie sur le terrain. Je pense que ça va être le temps de Medvedev. Ça va être le tour de Medvedev cette semaine. Donc, je vois Daniil Medvedev comme champion à Miami. Il est prêt pour un gros titre. Il joue très bien en ce moment. Il aura appris de son match contre Alcaraz aussi la semaine dernière en finale à Indian Wells. Et on sait qu'il l'a chauffé durant le premier set. Là, ça avait été 7-6. Donc, Daniil Medvedev de mon côté.
Ce sera presque unanime, messieurs, parce que je suis avec vous du côté de Swiatek. C'est vraiment difficile de gager contre une fille qui a à peu près tout gagné depuis le début de la saison. Elle a quand même déjà 3 titres à sa fiche. Elle a une demi-finale à Dubaï. Là, elle a échappé le titre en Australie au début de la saison, gagné par Sabalenka. Mais c'est la championne à Indian Wells et je pense qu'elle fera le titre au Sunshine Double, c'est-à-dire qu'elle va gagner back-to-back, comme on dit, le tournoi de Miami et d'Indian Wells. Et je vais enchaîner de la même manière en disant que Alcaraz va faire également le doublé, messieurs. Effectivement, tu sais, ça se pourrait.
Petite mouille.
Écoute, Alcaraz n'a peut-être pas été aussi constant depuis le début de la saison, mais il est quand même le champion à Indian Wells. Et là, messieurs, vous avez quand même pris Medvedev qui vient de faire la finale à Indian Wells.
Et messieurs, Alcaraz a retrouvé son sourire, ce qui est très bon signe pour lui et pour le tennis.
Écoute, depuis les abeilles, les gars.
J'allais dire exactement la même chose, j'allais dire. C'est grâce aux abeilles. Est-ce que les abeilles ont suivi à Miami? C'est peut-être une chose. Messieurs, c'est ce qui complète l'épisode de la semaine. Merci une fois de plus pour votre excellent travail. Hugues Léger, considère-toi salué et en espérant que la neige fonde pour que tu puisses aller jouer à l'extérieur plutôt que plus tard à Nicolas Richard, comme c'est la tradition, je vais te donner le mot de la fin.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.